Åsanses painu med den hollos ulupu prosoligon estitos en totelos okonos apaitei.
Sylvain Perrault, donc oui. Cette chanson vous venez d'interpréter, elle date de quelle époque ?
Elle date du 2e siècle après Jésus-Christ.
Et vous la restituez à partir de quels éléments ?
Donc il s'agit d'une inscription funéraire et qui se présente sous la forme donc, d'un texte, les lignes du poème. Et entre chaque ligne du poème, en fait, on a les signes musicaux, donc des signes qui notent la mélodie et le rythme.
Est-ce qu'à cette époque-là, là, il y avait une richesse, on va dire, de la musique en termes de gamme, en termes de contenu, enfin, voilà. Est-ce qu'on trouve une réelle diversité aussi selon les endroits ?
Alors la diversité, elle se manifeste déjà dans les harmonies qui sont utilisées. Il y a 15 harmonies en usage à cette époque dans la musique grecque, dans les rythmes. Et puis évidemment, selon la région dans laquelle on se trouve, on a des traditions différentes. Et ce qui change aussi, bien sûr, c'est le contexte d'utilisation de la musique. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas interpréter un hymne aux dieux comme on va chanter une chanson de banquet.
Donc actuellement, est-ce qu'en Grèce, il existe encore une culture basée sur cette époque-là, je parle d'un point de vue musical, qui perdure ?
Non, pas du tout. La musique grecque contemporaine est une musique qui tire beaucoup de ses origines du côté oriental, plutôt à partir de l'époque moderne. Et puis l'autre tradition, bien sûr, qui perdure en Grèce, c'est la tradition liturgique, mais qui est inventée au Moyen-Âge.
Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation musicale meurt ?
Bien, d'abord les événements politiques, les événements religieux en l'occurrence. C'est sûr que le passage du paganisme au christianisme a joué, puisque dans un premier temps, les chrétiens ont refusé en bloc le paganisme et la musique qui l'accompagnait. Donc il y a eu des changements assez importants, mais il ne faut pas non plus trop scinder les choses, puisque enfin, on a la preuve que la musique chrétienne s'écrivait avec la notation musicale grecque antique, puisqu'on en a un exemple sur papyrus.
On peut imaginer donc d'un côté une forme de censure et d'un autre côté un prosélytisme pour pousser certains nouveaux styles.
Ben, ce qui, dans le cap donc, qui nous occupe du passage du paganisme au christianisme, c'est surtout une question de théologie, de la place de la musique dans la théologie, et ça a fait beaucoup débat chez les pères de l'Église. Alors, ce qu'on a conservé, ce sont les débats intellectuels. Ce qui se passait dans les premières églises chrétiennes, c'est très difficile à mesurer puisqu'on n'a quasiment rien conservé de cette époque. Donc il est très difficile de répondre à la question de comment on est passé d'un système à un autre, puisque simplement, est-ce que refuser le paganisme implique de refuser aussi toute sa musique ? Les choses ne sont pas si claires que ça.
Donc on parlait là des rituels liés à la religion, mais la musique pouvait aussi s'exprimer dans d'autres lieux, plus festifs peut-être d'ailleurs.
Alors, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, en tout cas pour le monde grec, c'est que même les manifestations qui pour nous paraissent profanes sont en fait des manifestations religieuses. Par exemple, les concours dans la cité grecque, c'est certes un moment de divertissement, bien sûr, et ça le devient de plus en plus, mais c'est d'abord un spectacle qui est lié à un culte, donc un culte à une divinité, par exemple Dionysos à Athènes. Donc, si on cherche des musiques plus profanes, dans notre sens à nous, eh bien, on ira du côté des chansons de banquet, des chansons érotiques, ou des chansons qui accompagnaient les travaux de la vie quotidienne, les vendanges, le pétrissage du pain, etc.
Alors, dans ce domaine, effectivement, il peut rester des textes qui sont intéressants.
Alors, nous avons conservé pour ces domaines assez peu de chansons de la vie quotidienne, puisqu'on a conservé plutôt les grands auteurs. Donc, on a quelques poèmes érotiques, évidemment, notamment toute la tradition de Sappho, d'Alcée. Mais après, c'est vrai qu'en termes de partition, ce qu'on a essentiellement conservé, ce sont les grands auteurs, donc les grands genres littéraires et musicaux que sont la tragédie ou les hymnes aux dieux.
Donc, Sylvain Perrault, cette exposition vous a mobilisé beaucoup. Est-ce qu'elle vous a permis d'aborder d'autres chantiers à venir ?
Alors, l'exposition est à la fois un aboutissement de plusieurs, enfin, pendant, pour ce qui me concerne, de 10 ans de recherche, exposer l'état actuel de la recherche, mais évidemment, la confrontation avec les autres civilisations notamment nous ouvre de nouvelles problématiques, de nouveaux horizons, et notamment, je pense que notre plus grand chantier à l'heure actuelle, c'est la question des échanges, des transferts culturels entre les civilisations, et donc là où tout reste ou presque à découvrir.
Est-ce que les musiques qu'on fait réapparaître en termes de son, tout au moins avec les instruments qui ont été virtualisés au niveau du timbre, etc., par rapport à leur spécificité, peuvent donner lieu par la suite? Donc pourquoi pas, ouais, est-ce que vous lancez un concours d'interprétation?
Ben, sans que ce concours ait eu lieu de manière organisée, il est certain que depuis que la musique antique est connue du public, elle appartient au public. C'est-à-dire qu'au début de la chaîne, il y a un scientifique qui restitue la partition, qui en donne déjà une première interprétation, et ensuite, ça tombe, si je puis dire, dans le domaine public, parce que ces textes ont, ces chansons ont 2500, 2000 ans d'âge, et l'histoire prouve qu'il y a eu déjà de nombreuses versions, et l'épitaphe de Seikilos, par exemple, est le cas le plus intéressant de ce point de vue, puisqu'on trouvera au début de la chaîne des interprétations très scientifiques, donc juste avec la simple mélodie, jusqu'à des interprétations, par exemple, plus orchestrées, comme dans le film Le Peplum Quo Vadis, où il était prévu qu'on entende un certain nombre de pistes liées à l'Antiquité. Miklos Rosa, le compositeur du film, avait utilisé beaucoup de mélodies, notamment l'épitaphe de Seikilos pour en faire la chanson de Néron. Et pour ce qui est de Seikilos, je pense le plus drôle, le plus amusant que j'ai trouvé, c'est un groupe de rock néo-gothique allemand qui en a fait une version complètement déjantée disponible sur Internet.
Le nom du groupe ?
Corvus Corax.
Merci, c'est bien noté.